podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être là pour animer cette table ronde qui est un peu aussi... qui n'est pas une table ronde institutionnelle, qui est très centrée sur des questions concrètes que peuvent vivre des auteurs et des autrices de podcasts. Donc, pourquoi la SCAM ? Parce que la SCAM réunit les podcasteurs et podcasteuses du milieu du documentaire, du journalisme, un peu du monde du réel, pour dire les choses. On a signé beaucoup d'accords avec des plateformes de podcast. Alors, on a tous le même intérêt les uns et les autres, c'est que ça marche, le podcast, même si le podcast traverse en ce moment une période difficile, mais comme souvent dans les marchés émergents, c'est pas facile. Et puis, on se bat, je pense que vous le savez, pour avoir des aides de l'État. C'est pas simple, mais voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. On l'a beaucoup traité au Paris Podcast Festival. Il y a une tribune qui est parue hier, il y en a eu une autre de la SCAM, mais tout ça pour dire qu'on essaye de se battre pour obtenir... des sous et des aides, parce que c'est vrai, vous le savez, la création sonore est un peu un impensé des politiques publiques. En attendant, il y a quand même des autrices qui font du podcast, qui y croient, et des podcasteurs qui croient à ça, qui pour autant ne rencontrent pas toujours un lit de pétales de rose. Qui sont sûrement très heureuses, mais elles vont nous le dire, de faire du podcast. Donc aujourd'hui, autour de moi. Vous avez donc Vianney Baudeux. Pourquoi Vianney Baudeux ? Parce que Vianney Baudeux, à la SCAM, travaille sur le répertoire sonore, donc est le juriste au service juridique et donc connaît évidemment très bien les questions à la fois institutionnelles et juridiques qui concernent le podcast. Et puis deux autrices, Marine Vlahovic.
Vlahovic.
Ah, Vlahovic, voilà.
C'est pas grave.
Il fallait bien que je me gourre. Non, mais il y avait une chance sur deux. J'ai pas trouvé la bonne. Bon, Marine Vlahovic. Autrice, mais je vous laisserai vous présenter vous-même, c'est mieux que ce soit moi qui le fasse, et Samia Basile à ma gauche. Donc je vais vous laisser vous présenter l'une après l'autre, dire un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours, et puis ensuite on abordera effectivement, puisque c'est le thème de la table ronde, les pièges qui peuvent se mettre sur la route d'un podcasteur qui veut faire un podcast, que ça soit sur des questions de rémunération, de contrat, d'adaptation, d'insertion aussi d'œuvres préexistantes dans un podcast, c'est des questions juridiques, Vianney pourra y répondre. Et pour commencer, donc, allez, je vais faire par ordre alphabétique, pardon Marine, mais après tout, je vais donc demander à Samia, oui. Basile, de nous dire un peu qui tu es, Samia.
Oui, alors, bonjour, donc je suis autrice de podcast depuis 5 ans et demi à peu près. J'ai travaillé avec différents producteurs et enfin studios de production. Depuis un an, je fais un podcast indépendant, donc je découvre aussi la joie du podcast indépendant, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai que c'est plus le travail avec des studios de production. Et j'ai fait plutôt du documentaire jusque-là. Mon podcast indépendant, c'est un podcast de conversation, mais c'est vrai que par ailleurs, j'ai fait plutôt des documentaires, notamment des séries documentaires sur des sujets sociétaux. J'espère que c'est une bonne... Un
parfait,
bon résumé.
Samia. Marine.
Donc, bonjour, je m'appelle Marine Vlahovic. Je suis journaliste et autrice depuis 15 ans, parce que j'ai commencé à travailler avec Arte Radio il y a maintenant 15 ans. Donc, le temps passe et vite. J'ai fait beaucoup aussi d'actualité. En fait, j'ai toujours fait un peu les deux. Donc voilà, j'aime bien dire que je suis journaliste et autrice jusqu'à
il y a les journalistes trois... sont auteurs. Hein, je le dis,
voilà,
parce que
exactement.
Parfois ils ont des doutes, les journalistes.
Ouais.
Les journalistes, ils sont auteurs. Hein. Mm-hmm. Ça, on est d'accord là-dessus. Hein.
Jusqu'à quand même il y a 3-4 ans, j'étais correspondante à l'étranger. C'est une expérience que j'ai racontée dans un podcast qui s'appelle Carnet de correspondante, donc produit par Arte Radio, qui est lauréat du prix SCAM au Paris Podcast Festival. Festival, c'était en 2021, voilà, et depuis je ne fais que du podcast documentaire, toujours à Arte Radio et aussi à Radio France, à France Culture, mais aussi avec d'autres studios, institutions, voilà, et je suis une heureuse précaire.
Ça c'est pas mal, hein, parce que ça pourrait pas être contradictoire, être précaire et heureuse, mais ça peut arriver. Juste, Samia, je rajoute, parce que par pudeur ou je sais pas, mais tu as collaboré à la SCAM pour A comme auteuriste, qui est un podcast. Il y a, je crois, vous avez Voilà le petit flyer qui va avec, qui vous dit ce que c'est qu'une autrice à la SCAM.
Voilà, en fait, c'est juste un podcast pour expliquer un petit peu les termes juridiques, les termes qui peuvent intéresser les auteurs et autrices de podcasts. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat, qu'est-ce que c'est que combien on est rémunéré, qu'est-ce que c'est que des droits d'auteur, etc. Et donc, voilà, c'était pour un peu vulgariser ces questions-là. Et moi aussi, j'ai appris beaucoup d'ailleurs en faisant ce podcast, parce que finalement, je n'étais pas forcément au fait de tout avant de commencer.
Non, les arcanes du droit sont parfois complexes. Alors, juste avant d'aborder les pièges et voir comment Vianney pourra aussi répondre à comment les éviter, ces pièges, juste parce que je vais oublier, alors autant que je le fasse maintenant, je voulais vous rappeler aux uns et aux autres, si vous êtes auteur ou autrice de podcast, que l'ARCOM a lancé un questionnaire qui a du sens. Il faut essayer de répondre à l'ARCOM. Je suis pas en train de faire la pub de l'ARCOM, mais simplement dire qu'il y a un questionnaire qui circule, hein, je crois que c'est ça, Christina, et que donc il y a un appel à répondre pour mieux identifier les podcasts. C'est lié aussi à l'Observatoire du podcast qui a été mis en place par l'ARCOM, qui est un outil qui peut être très important pour mieux suivre les évolutions du podcast. Donc, je fais un appel à répondre à l'ARCOM. Voilà, c'est gratuit, ça rapporte rien, mais ça peut être quand même utile de faire connaître à l'ARCOM et à nous qui vous êtes et quels sont quelle est votre situation. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Donc, je me permets d'insister là-dessus. Vianney, voilà. Donc, les pièges. Alors, est-ce qu'il y a des pièges? Oui, il y a forcément des pièges quand on veut faire un podcast. Alors, on va peut-être commencer par le début et puis voir si vous, ce que vous avez vécu l'une et l'autre. Hein, prenez la parole spontanément l'une ou l'autre. Je pensais notamment, pour démarrer, tout simplement à des questions de nature contractuelle. Alors, ce qui est vrai, c'est que vous travaillez parfois avec des producteurs du milieu. Et puis parfois, vous travaillez avec des commanditaires dans le podcast. Il y a beaucoup de commanditaires. Ça peut être des entreprises privées. Ça peut être pas mal des collectivités locales, des établissements publics. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez des expériences particulières? Est-ce que vous voulez peut-être dire quelque chose, Samia?
Oui, donc voilà, c'est ça. J'ai travaillé avec des studios de production pour des podcasts originaux, on va dire, des choses que moi, j'ai pitchées, que j'ai proposées. Et effectivement, j'ai fait, je crois, à ce jour, un podcast de marque, c'est-à-dire avec une entreprise privée, et un podcast institutionnel, donc la SCAM. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des enjeux qui sont complètement différents, parce que là, quand on fait un podcast pour une marque ou une institution, c'est vraiment, ça devient vraiment le podcast de la marque ou de l'institution. C'est-à-dire que c'est l'enjeu est plus compliqué, c'est plus délicat quand on est auteur, autrice, de savoir quelle est notre liberté éditoriale, à quel moment est-ce qu'on peut imposer nos propres choix, et à quel moment est-ce qu'on peut nous imposer aussi des choses. Ce qui est aussi une question qui se pose quand on travaille avec des producteurs, mais peut-être encore plus quand on représente une institution ou une marque à travers un podcast.
On en parlait quand on préparait l'émission, je vais te demander Marine, mais nous on connaît un peu à la SCAM le film institutionnel traditionnel, classique, hein, je veux dire des films de commande. Et je suis très frappé souvent de ce que disent les auteurs, au-delà de la qualité de ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils disent qu'il y a une forme de paradoxe dans les films de commande, c'est que le commanditaire souvent n'y connaît rien sur le plan... Voilà, il ne sait pas ce que
éditorial.
C'est
faire un
film éditorial. Et donc, du coup, les auteurs de films traditionnels, je sais pas, on fait un film pour BNP Paribas, pour une association, pour n'importe quelle boîte, et souvent, ils ont une grande liberté. Une fois qu'ils ont le brief, on leur fiche la paix au fond. On leur dit pas comment il faut qu'ils travaillent, comment il faut qu'ils montent, alors qu'un auteur dans une chaîne de télévision... En général, si vous travaillez sur Arte, classé, voilà, ou sur France Télévisions, ou sur d'autres chaînes, il y a toujours des contraintes. Est-ce que c'est le cas dans le podcast, ou est-ce qu'on retrouve finalement, peut-être paradoxalement, une liberté éditoriale, même s'il y a un commanditaire qui vous dit c'est ça que je veux et pas autre chose?
Alors, moi, j'ai été contactée par un studio donc pour faire un podcast de marque. Il s'avère que cette marque était une grande entreprise du nucléaire qui voulait un podcast documentaire un peu incarné, enquête sur la filiale du nucléaire à l'étranger. Et là, on m'a dit, on a pensé à toi. Je dis, ok. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le côté tête brûlée, etc. Et je me suis quand même demandé, mais pourquoi moi? Enfin, vraiment, parce que si c'est pour la marque, évidemment, j'aurais pas de liberté éditoriale. J'ai dit, d'accord, par curiosité, enfin, pour en savoir un peu plus par la suite. Mais enfin, moi, je suis partante si on m'assure. toute la liberté éditoriale dont je dois disposer. Et puis bon, bah ça, ça s'est pas fait. Voilà, on m'a dit que finalement ça ne se ferait pas. Donc je sais pas.
Ils ont senti la tête brûler.
Alors je sais pas. J'ai pas vraiment cherché. J'ai pas été voir en coulisses. Voilà ce qui s'était tramé, mais c'est le seul cas, voilà, où je me suis, où j'ai été confrontée entre guillemets. À cette difficulté, quoi. Mais en fait, j'aurais dû refuser. Enfin, si vraiment on m'avait imposé donc de lire le script, enfin la pré-enquête, que tout soit orienté, j'aurais refusé. Mm-hmm. Mais parfois, c'est difficile quand même de refuser des projets parce que c'est notre gagne-pain, quoi. Donc là, il y a une question de déontologie, de morale qui pèse sur nos épaules et qu'on devrait pas, enfin, ça devrait pas forcément être à l'autorice d'assumer finalement ça. Mm-hmm. Ça serait plutôt au studio de podcast de s'en charger, voilà. Et sinon, je peux parler peut-être d'une autre expérience. Alors, c'est pas vraiment un podcast de marque. J'ai fait un podcast pour le MUCEM, qui est le Musée des Civilisations et de la Méditerranée à Marseille, mais au travers d'un studio de podcast marseillais. Et c'est vrai que quand on travaille pour des institutions culturelles, on a quand même, enfin moi dans mon cas en tout cas là, j'ai eu une totale liberté. Là en plus c'était assez particulier parce que donc il y avait une grande exposition organisée il y a 2 ans sur l'émir Abdelkader, hein, le résistant algérien à la colonisation française, et donc ils voulaient un podcast documentaire et moi je leur ai dit d'accord. Mais il faut que j'aille en Algérie, c'est-à-dire que je ne vais pas tourner le podcast documentaire en France. Ça me semblait pas loyal, pas honnête. Et ils ont dit OK. Bon, ensuite, ça a été compliqué d'obtenir les autorisations, etc. Enfin, le visa, voilà. Les tournages en Algérie sont très, très, très complexes. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai réussi à aller en Algérie, voilà, le MUCEM a écouté pour validation, mais ils sont pas du tout revenus sur le contenu, voilà.
Et financièrement, c'était convenable?
Financièrement, c'était, ça aurait pu être convenable, mais ça ne l'était pas. Attention, la session, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Commence.
On va demander à Vianney après, justement, peut-être.
C'est-à-dire que là, c'était un cas un peu particulier. Donc moi, j'ai été longtemps pigiste, journaliste rémunérée à la pige, donc à la tâche. J'ai vu que ça, enfin voilà, je pouvais pas continuer à être pigiste, et donc j'ai décidé de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire l'intermittence, et ouvrir ses droits à l'intermittence la première année, c'est quand même assez compliqué. Donc j'avais fait mon calcul en me disant OK, en fait j'ai 6 mois devant moi. Dans 6 mois, il faut que j'ai ouvert mon statut. Et ce podcast faisait partie de mes plans cachets pour ouvrir mon statut d'intermittente. Il se trouve que j'ai fait quelque chose. Alors, je me souviens que je ne sais pas si je t'ai appelée à ce moment-là, ou en tout cas, j'ai fait appel à quelqu'un de la SCAM. Je ne sais plus qui exactement. Le studio de podcast a accepté de me rémunérer en cachet, mais a déduit les charges sociales que eux payaient. Donc ça me faisait des cachets pour l'ouverture de mes droits, mais j'ai perdu énormément d'argent, voilà. Mais sans ces heures-là, je n'aurais pas pu ouvrir mon statut à temps. Donc et c'est quelque chose que je ne fais plus, que j'essaye de ne pas faire. Mais avec l'intermittence, il y a quand même une difficulté, c'est que quand on arrive à l'approche de la date anniversaire et qu'il nous manque des heures, ou alors qu'on sait déjà que notre taux horaire va être bas et que notre indemnité sera basse et qu'on est obligé de faire des heures en plus, et ben en fait on est obligé de trouver des plans boulot et pour déclarer et voilà. J'espère que ça m'est pas encore arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera pas, je touche du bois, mais par nécessité économique, voilà. Mais normalement il faut surtout pas faire ça.
Alors peut-être force exactement, Vianney, sur le plan contractuel, et est-ce qu'il y a des différences entre, selon la nature des contrats, par des commanditaires, ou alors, je sais pas, de producteurs plus classiques, dans le secteur comme Nouvelles Écoutes ou autres, sans citer forcément ou mettre le doigt sur tel contrat de telle entreprise. Quels sont un peu ce que vous voyez quand vous voyez les contrats des auteurs? Qu'est-ce qui vous frappe dans les éventuels pièges ou problèmes que ça peut poser?
Effectivement, il y a une très grosse différence dans la manière de contracter et de travailler avec un studio qui est un professionnel de la production sonore, de la production audio, et un commanditaire qui ne l'est pas du tout. En général, un commanditaire type musée, galerie, intercommunalité, établissement public va s'adresser à un auteur, une autrice sonore. Il va lui commander un produit fini, en fait. Il va s'adresser à lui comme s'il était un producteur. Voilà, il va pas s'embarrasser. Alors, je mets de côté ce que tu as raconté avec le MUCEM, qui est une institution culturelle, je pensais un peu.
Oui, et puis, enfin, moi, tout ça, ça passait par un studio de podcast.
Quoi. D'accord. La plupart du temps, quand c'est un pur podcast de marque, comme tu as dit tout à l'heure, Samia, en gros, on s'adresse à vous comme un prestataire de service et on vous demande un produit fini. Donc, à vous d'aller trouver votre monteur, votre mixeur, etc., d'assurer l'habillage, de clearer, entre guillemets, excusez-moi du terme, les droits, si vous avez envie d'insérer de la musique ou autre. Voilà. Et en gros, en général, on vous demande de faire une facture. Donc, vous avez votre structure, votre micro-entreprise et vous vous adressez une facture. En pratique, ça se passe comme ça. Alors souvent, les gens me disent, mais du coup, est-ce que je suis auteur? Est-ce que je suis producteur? Qu'est-ce que je fais pour mes droits? Ce qu'on conseille, c'est donc pour cette relation contractuelle qui ressemble à un accord de licence entre un commanditaire et un producteur, vous éditez une facture et vous pouvez... C'est très pratique hein, ce que je vais raconter, mais j'ai l'impression que ça peut aider des gens. Vous copiez-collez les clauses relatives à la cession des droits que nous avons mis, nous, dans notre modèle de contrat, ou vous les inventez vous-même. À minima, vous mettez à quoi est destinée l'œuvre, pour quel territoire vous autorisez son utilisation, sur quel support, pour quelle durée, etc., etc. Pas besoin de rechercher une légistique parfaite, etc. Il suffit que ce soit clair. Donc voilà en pratique comment se passe en fait la relation entre un commanditaire non producteur et un auteur. J'ajoute une toute petite chose là-dessus, c'est que justement sur ces questions-là, comme maintenant, disons à la louche, c'est à peu près 30% des situations auxquelles moi j'ai affaire quand j'ai des auteurs et des autrices au téléphone, on envisage d'éditer une sorte de petit guide pour l'auteur auto-entrepreneur qui fait des podcasts, j'aime pas trop podcasts de marque, peut-être institutionnel, peut-être c'est mieux, de ce type, voilà, un peu l'aiguiller dans la manière de procéder.
Ok. Vous
avez... Oui, moi j'avais eu une expérience, donc voilà, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé, qui était une entreprise de la construction, en gros, j'ai fait un podcast pour eux via un studio de production, qui était donc un média qui avait une antenne podcast, et eux faisaient l'interface entre le client et moi. Mais c'est vrai que là, par contre, j'avais aucune liberté. C'est-à-dire que j'ai écrit une première version du script. Ce qui est normal, c'est que ce soit relu après par les producteurs et qu'on travaille ensemble. Mais en fait, eux l'envoyaient aussi à l'entreprise et l'entreprise mettait son veto sur 2-3, plus que sur 2-3 d'ailleurs, sur des passages qui lui plaisaient pas trop, qu'elle jugeait trop politique, etc. Et donc, moi, ce qui est dommage, c'est que les personnes qui ont fait l'interface se sont pas du tout chargées de rappeler, entre guillemets, l'entreprise à l'ordre en disant, on est quand même un média, en fait, on travaille pour vous, mais on est un média. On engage aussi notre responsabilité journalistique. Et donc, je me suis retrouvée à accepter pas mal de choses qui ne me plaisaient pas. Et je me suis dit, si c'était à refaire, je ne sais pas. Enfin, la question, si c'était à refaire, est-ce que je le referais ou pas? C'était bien payé. Voilà. Donc, et à ce moment-là, j'avais besoin de sous. Donc, c'est toujours un petit peu. Je ne dis pas que. C'est ça. Je ne dis pas qu'il faut accepter tout au nom de l'argent. Mais d'un côté, pour que la précarité soit heureuse, il faut quand même qu'on soit payé un petit peu en conséquence.
La question qu'on peut se poser, c'est effectivement que parfois, c'est pas forcément à l'auteur ou à l'autrice d'être en première ligne. Parfois, normalement, le producteur ou celui qui est l'intermédiaire, je sais pas comment on peut l'appeler, enfin, c'est quand même un producteur, c'est à lui de savoir protéger son auteur et son autrice. Ça, c'est très sensé. Encore une fois, je fais parfois le parallèle avec le monde traditionnel, mais ça aide. Parce qu'après tout, on réinvente pas le monde non plus avec le podcast. Hein, je veux dire, créer une œuvre, la diffuser, c'est pas si éloigné que ça du monde traditionnel. Mais c'est vrai que ça, c'est important. Est-ce que vous avez le sentiment que, au fond, parfois, l'auteur de podcast se retrouve un peu trop seul et que les intermédiaires font pas toujours leur boulot? Enfin, on peut le dire un peu comme ça?
Ça dépend. Enfin, ouais. Non. Moi, j'ai vraiment produit des podcasts pour des studios. Alors, des studios, des producteurs, voilà.
Oui, ce que j'appelle.
Je parle par exemple Arte Radio.
En studio, mais.
Voilà, mais Arte Radio, c'est à la fois un studio de podcast
et un diffuseur.
Et un diffuseur, ouais. Voilà, studio, enfin, et diffuseur, où on est, mais ultra accompagné. Ouais, voire soigner aux petits oignons ou alors lâcher complètement en liberté, ce qui est aussi génial. donc voilà, enfin,
en tout cas respecter, j'allais
et
dire.
Oui, respecter, même si il faut quand même aussi faire respecter ses droits, c'est-à-dire que moi quand j'ai décidé de devenir intermittente, comme j'étais payée à la pige à Arte Radio, je me suis pas trop posé la question. Les piges vont être transformées en cachets. En plus, j'y comprenais rien à l'intermittence, mais alors rien du tout. Et là, on m'a dit attention, demande bien à être déclarée en tant qu'artiste. Puisque quand tu es déclaré en tant qu'artiste, ton cachet compte pour 12 heures. Mais sinon, on te déclare automatiquement en tant que technicienne. Et donc, le cachet équivaut à 8 heures de travail. Donc, on perd 4 heures.
Et ça, voilà. C'est la question de l'annexe 8.
C'est la question de l'annexe 8 et l'annexe 10.
Qui se pose à Radio France, je crois.
Alors, qui se pose à Radio France.
On va dire
mais
comme ça.
À Radio France, on n'a pas le choix, mais c'est en cours de discussion.
Ouais,
je sais. Voilà. Et donc, j'ai fait valoir mes droits. Voilà. On me l'avait pas dit automatiquement. Je ne crie pas au complot, pas du tout. Mais je pense pas que c'était dans le but de me nuire, mais c'est que moi non plus, je ne connaissais pas totalement mes droits. Voilà. Donc, j'ai bien veillé à les faire respecter.
Vianney, vous voulez rajouter quelque chose?
Sur ce sujet en particulier,
sur le statut. Alors,
oui, ça, quand vous, en gros, là, on parle de quand on travaille avec un producteur, enfin un vrai studio, c'est ça,
Un producteur diffuseur.
Un producteur diffuseur, comme le sont à peu près tous les studios de production de podcasts. Mmh. On est dans une situation complètement différente de celle qu'on a évoquée précédemment. Il y a beaucoup de sources d'informations maintenant. Il y a le site de la SCAM avec des choses dedans, et il y a aussi, j'en parle maintenant, sinon je vais oublier de l'en parler, une charte des bonnes pratiques sociales et contractuelles des producteurs audio indépendants, qui est un document donc édité par le PIA,
oui,
qui est le syndicat des producteurs
indépendants. C'est bien d'en parler quand même, parce qu'il y a eu un effort de fait.
Voilà. Qui est un excellent bréviaire en complément de ce que vous avez sur le site de la SCAM, où il y a du contenu écrit, du contenu sonore, vous avez compris. Mais c'est un très bon bréviaire pour vous informer de vos droits, et surtout, c'est une sorte de manifeste aussi des studios, donc c'est vos engagements pour eux de vous rémunérer comme ils expliquent qu'ils le font. En l'occurrence, la plupart du temps, quand vous êtes auteur-réalisateur, d'abord vous êtes auteur, vous n'êtes pas technicien, effectivement. Et si vous n'avez pas fait que concevoir par écrit le podcast et que vous le réalisez, vous êtes aussi réalisateur. Donc vous avez droit à normalement deux contrats, je mets des guillemets au terme. Un pur contrat de travail, en général ce sont des CDDU dans le secteur, et un contrat de cession de droit, où là c'est vraiment le périmètre, c'est vraiment ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire quel droit vous acceptez de céder pour quelle exploitation au studio. Voilà. L'équilibre entre les deux, salaire, droit d'auteur, c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Je vais le dire un peu de façon pratique encore, c'est que c'est toujours mieux d'avoir plus de salaire que de droit d'auteur du moment que vous vous y retrouvez en net. Parce que sur le salaire, vous allez cotiser notamment au chômage, ce qui n'est pas le cas sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur est toujours beaucoup plus avantageux pour un payeur, producteur ou pas producteur, parce qu'il n'y a pas de cotisation patronale sur le droit d'auteur. Mais qu'il n'en abuse pas, parce que vous, quand vous êtes payé en droit d'auteur, et c'est très souvent le cas dans le podcast, on vous propose un forfait de 600 euros, par exemple, pour un épisode de 30 minutes, je vous dis 20 minutes, et on va vous proposer 100% en droit d'auteur. Bah, sauf qu'au bout du compte, si vous faites payer que comme ça, vous n'aurez jamais cotisé pour vous ménager des indemnités chômage. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu.
Je ne sais pas si tout le monde sait, bien. Je me permets,
oui.
Sait ce que c'est que les droits d'auteur. Parce que, tout le monde a cette... Non, alors moi, je ne me risquerais pas, il y a Vianney qui est là, donc je préfère... Mais qu'est-ce que c'est? En fait, je pense que juste clarifier ce que c'est peut-être la
le
différence.
Le salaire et le droit d'auteur. Ce qui correspond. Oui, peut-être. Oui, en effet.
C'est une nature de revenu. En fait, le droit d'auteur va rémunérer... Si vous êtes, par exemple, un scénariste, pur scénariste, et que vous ne faites que écrire, vous pouvez être rémunéré complètement en droit d'auteur. Ça paye votre prestation intellectuelle. Le fait d'avoir écrit quelque chose Et ça paye aussi, ce que j'ai dit, enfin, c'est une façon pour le producteur d'acheter la cession des droits. Sur du droit d'auteur, vous avez normalement, si les choses sont bien faites, une part forfaitaire au moment où vous signez le contrat, et une part proportionnelle qui vient en fait en aval, une fois que l'œuvre est exploitée, et qu'elle génère des revenus quand elle en génère. Donc un pourcentage sur les recettes. Le droit d'auteur, ça a aussi un régime social, c'est-à-dire un régime de cotisation sociale particulier et un régime fiscal particulier. Voilà. Vous ne cotisez pas auprès des mêmes caisses, etc. Enfin, en tout cas, différemment. Et voilà, c'est une différence de nature de revenu entre...
Ce qu'il faut peut-être ajouter, parce que c'est un vrai piège classique, qui ne concerne pas le podcast, mais qui est un classique dans le secteur, c'est de vous entendre dire qu'on va vous payer un salaire, mais que comme vous toucherez des droits d'auteur... Le salaire, il est ce qu'il est. Et puis, il y aura de toute façon les droits d'auteur. Alors, aujourd'hui, dans votre secteur et dans un podcast, c'est pas complètement vrai, parce que malheureusement, à part 2-3 cas qu'on a cités, je pense Arte, on ne parle pas de Radio France, mais de quelques poches où il y a un peu de sous, il n'y a pas beaucoup de sous. Donc aujourd'hui, même les droits que la SCAM vous verse, parce que c'est important d'en parler, quand il y a des accords, ces droits restent très limités. On perçoit peu d'argent des plateformes et des redevables. Et du coup, comme on en reçoit peu, ben, les auteurs, on en verse peu de droits. On n'en verse pas assez. Hein. Mais ça, c'est la situation économique. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention aujourd'hui et demain de ne pas se laisser enfermer dans un discours extrêmement pervers que beaucoup de producteurs ont, même quand ils disent qu'ils ne l'ont pas. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose qui, parfois, dans les couloirs de la Maison Ronde, existe. C'est... « Ah ouais, mais de toute façon, il y a les droits SCAM. » Voilà, donc, sous-entendu, bon. Or, non seulement c'est choquant, mais parce que les deux ne rémunèrent pas la même chose. Par exemple, nous, on a des auteurs, même à la SCAM aujourd'hui, et là, je ne parle pas du podcast, qui continuent à croire, donc vous voyez, même des auteurs un peu aguerris, qui continuent à croire qu'au fond, quand ils ont beaucoup travaillé, ils devraient avoir beaucoup de droits SCAM. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous faites un podcast en traversant à la nage l'océan Atlantique qu'on va vous verser des gros droits d'auteur. En revanche, a priori, ça mériterait que vous ayez un gros salaire. Mais je plaisante à peine, mais c'est très important. Donc, le droit d'auteur et le salaire ne doivent pas être mélangés. Or, très souvent, on incite les auteurs, enfin, à se dire, ah bah oui, d'accord, au total, je vais toucher 1 500 €, et puis, oui, bah d'accord. Non, parce que c'est une façon extrêmement malhonnête de la part de celui qui a commandé l'œuvre, ou qui vous a demandé, avec qui vous avez un contrat de travail, de pas vous rémunérer suffisamment. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus, même si aujourd'hui, il peut y avoir une atténuation de ce que je dis, parce que personne n'a beaucoup d'argent, donc il arrive qu'on travaille aussi avec des studios qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais il faut respecter ça. Donc c'est très important, c'est deux secteurs différents, mais l'un ne doit pas venir diminuer, le droit d'auteur n'est pas là pour venir diminuer le montant de votre rémunération et du salaire. Ça, c'est vraiment fondamental. Voilà, c'est un sujet classique que tous les auteurs connaissent. Si j'ai bossé 15 jours, j'ai bossé 15 jours. Voilà. J'ai pas bossé 8 jours. Même si on essaie de croire que j'ai bossé 8 jours. Parce qu'après, il y a un autre sujet, c'est le travail, entre guillemets, parce qu'il faut faire très attention au travail dit invisible. Mais il y a souvent dissimulé. Chez les auteurs... Oui, alors le travail dissimulé, il faut faire très attention parce que c'est un délit... Donc je veux pas employer le mot de travail dissimulé qui voilà. Enfin, mais en tout cas, le travail, ce que j'appellerais le travail un peu invisible, soi-disant, qu'on voit pas, c'est toujours facile qu'on ne vous le paye pas puisqu'on ne le voit pas. Voilà. Et ça, il faut faire très attention à ça.
C'est très dit. Samia, tu veux...
Non, en fait, je voulais juste, peut-être, si on devait vraiment résumer, le salaire, c'est pour la production, alors que le droit d'auteur, c'est pour l'exploitation, la diffusion du podcast, en fait.
C'est pour récompenser, entre guillemets, l'originalité et le travail purement intellectuel que vous avez mis et le degré d'originalité, d'initiative intellectuelle, d'écriture. Marine ?
Oui, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Voilà, il faut être payé, il faut veiller à être payé à la hauteur de son travail. C'est extrêmement difficile. Là, on repart dans la session. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Moi, je n'y arrive. J'arrive toujours pas à être rémunéré à la hauteur du travail
effectué.
Que je fournis. Et parfois, c'est usant. Parfois, je suis une précaire malheureuse à cause de ça. Bah oui, parce qu'en fait, on a quand même le sentiment que, enfin, la reconnaissance de son travail en prend un certain coup.
Je comprends.
Voilà. Donc, et c'est extrêmement, extrêmement difficile, surtout ben, pour des producteurs, par exemple, diffuseurs qui rémunèrent très mal. Enfin, voilà, ça n'arrive pas à bouger sur les conditions salariales. Ouais, c'est parfois c'est compliqué de faire respecter ça. Après, ben, enfin, je sais pas toi comment tu fonctionnes. Moi, quand on me propose un projet, par exemple, ou que je le propose, j'essaye d'évaluer le nombre de jours de travail. J'en fais un tiers ou la moitié hein, de plus qui ne me seront pas rémunérés, mais j'essaye d'évaluer, voilà, et c'est toujours à la louche, j'ai encore du mal, quoi. Pourtant, ça fait quelques années que je pratique, je ne sais pas si tu es dans ce cas-là.
Exactement la même chose que toi, en fait. Voilà, je vais me dire, OK, par exemple, pour les enregistrements, tout cumulé, ça sera tant de jours. À la louche, comme tu dis, on ne peut jamais trop savoir. Pareil pour toutes les autres étapes de la production d'un podcast. Et on a un tarif journalier et on se dit, bon, bah, combien ça nous fait à la fin? Souvent, moi, après, ça me fait. Je me retrouve avec une certaine somme et je vais adapter en fonction de est-ce que je travaille avec un média qui n'a pas beaucoup de sous ou est-ce que je vais travailler avec une plateforme qui a un peu plus d'argent. Donc là aussi, on revoit plus ou moins à la baisse ou rarement à la hausse, souvent à la baisse. Mais en tout cas, il faut qu'on s'y retrouve. Et puis après, c'est vrai que dans la pratique, on se retrouve toujours à travailler plus que ce qu'on avait anticipé, souvent. Il y a plein de ce fameux travail caché, entre guillemets. Ça peut être juste envoyer des mails, ça peut être des coups de fil, ça peut être caler des interviews. Caler une interview, ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre parfois des jours selon l'interlocuteur. Donc voilà. Et bon, une fois qu'on est engagé dedans, on va pas dire, non, en fait, finalement, j'ai mis 4 jours pour ça, donc on peut pas renégocier, quoi.
C'est les avocats qui font ça. Non, mais les avocats, c'est une profession, ils vous disent, j'ai passé 45 minutes au téléphone. Ça vaut tant. Mais je plaisante pas, tout le monde le sait. Non, mais pour poser des questions un peu peut-être basiques, vous arrivez toutes les deux à en vivre. On vous a pas posé la question.
Oui, moi j'en vis, c'est vrai, depuis peut-être 4 ans maintenant. Et j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des périodes vraiment fastes où en fait j'ai eu beaucoup de travail. Et puis des périodes où c'était un peu plus compliqué et où on accepte plus facilement des missions peut-être moins rémunératrices. Mais je vis exclusivement du podcast en fait depuis 4 ans et demi, je pense, ouais.
Bon, ça c'est plutôt réconfortant, Marine.
Oui. Moi aussi j'en vis. Alors c'est toujours en dents de scie. Bon, j'ai l'habitude hein, puisque la pige c'est la même chose. Hein. Il y a un mois c'est jackpot et puis après plus rien pendant 3 mois, quoi. donc ça j'ai l'habitude. Alors depuis que je suis devenue intermittente, c'est vrai que c'est une sécurité dans la précarité. Ce que je n'arrive pas à avoir, c'est une indemnité qui me permette de vivre décemment. Heureusement que je vis à Marseille, parce qu'avec le travail que je fournis, en fait, a une conséquence sur l'indemnité, mon indemnité d'intermittente. Je n'arriverai pas à vivre à Paris
avec ce que tu gagnes.
Ouais, avec ce que je gagne. Mm-hmm. Ça serait impossible. Bon, après, il y a aussi des moyens de compléter. Les formations, les ateliers, et c'est quelque chose que j'aime faire, enfin j'aime transmettre, donc je le fais pas simplement par intérêt pécunier, mais ça m'aide quand même à renflouer un peu. Ouais.
Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être Vianney, il y avait d'autres questions qui peuvent être des pièges ou peut-être des méconnaissances, et c'est normal de la part de certains auteurs de podcasts. Mais je pense on va parler dans quelques instants des droits d'adaptation, c'est important. Mais est-ce qu'on peut dire peut-être un mot de l'insertion d'œuvres préexistantes? Enfin, quand on fait un podcast, il y a des questions juridiques qui peuvent se poser. Est-ce que là il y a peut-être une petite alerte à avoir là-dessus, parce que ça peut être
oui.
Un vrai sujet.
Oui, on me pose souvent la question de je veux citer une œuvre, je veux mettre un extrait de film dans mon podcast, ou je veux l'habiller avec une musique que j'ai pas composée moi-même, ou je veux lire un passage de livre ou autre. Comment faire ? Eh ben, il faut s'acquitter des droits et surtout d'abord demander l'autorisation au titulaire de ces droits. Mais qui est le titulaire des droits? C'est la deuxième question qu'on me pose. Alors, ça dépend des œuvres, ça dépend des personnes. En général, le titulaire des droits qui est en possession de ces droits et qui est en capacité de vous autoriser cette utilisation, c'est l'éditeur pour une œuvre littéraire, c'est plutôt le producteur pour une œuvre audiovisuelle, un film, et pour la musique, En général, c'est la SACEM qui sera en capacité et qui a le mandat pour vous autoriser à utiliser de la musique, mais pas sur toutes les œuvres. Voilà. Alors, parfois, on me dit aussi, mais comment je contacte ces gens? Puisque la plupart du temps, vous avez quand même, dans les crédits des films, vous savez quel est le producteur délégué, c'est-à-dire celui qui a la responsabilité juridique et financière du film. Donc, vous cherchez à les contacter, et ils ont toujours quelqu'un qui est responsable de ce genre de demande. Et puis, si ce n'est pas le producteur ou l'éditeur qui est titulaire de ces droits, et que c'est l'auteur qui a gardé ses droits, vous pouvez nous demander si on est le bon répertoire, si vous voulez mettre un extrait de reportage ou de documentaire, vous pouvez nous demander les coordonnées de cette personne. Hein, on fait un peu passe-place, et ça nous arrive pas très régulièrement, mais de temps en temps. Et vous pouvez faire la même chose avec les autres organismes de gestion collective.
Alors, en complément aussi, c'est pas exactement la même question, parce que c'est pas un insert d'œuvre existante, mais il faut pas toujours essayer d'avoir... Le dernier tube de Johnny Hallyday pour illustrer les années 70, parce que là, vous n'y arriverez pas financièrement. Donc, je dis ça parce qu'il y a parfois une certaine naïveté de penser qu'on va pouvoir avoir ou insérer en bande originale ou pour mettre de la musique des œuvres protégées d'artistes importants. Je crois que là, il faut quand même être extrêmement réaliste. Soit vous prenez des artistes peu connus, soit vous avez un pote qui se débrouille bien et vous faites ça comme ça. Parce que ça, c'est une illusion souvent. Et je dis ça parce que la musique souvent arrive et est conçue un peu après. C'est-à-dire on écrit le podcast, on écrit l'œuvre et on pense en prêt. Et c'est souvent normal, on pense à la musique dans un second temps. En voyant l'écriture, ce qui va se passer, ce que ça va être le podcast, on a tendance à penser... Et donc ça, c'est un vrai piège. Vraiment, moi, je connais bien ces questions de relations entre le monde de l'audio et de la musique qui se connaissent mal, le monde de la radio, et ça, il faut faire attention. Donc, sur la musique, il ne faut pas partir dans des rêves invraisemblables si on veut illustrer son podcast de musique, parce qu'en général, les droits sont épouvantablement élevés en matière de musique. Alors, il y a aussi
des plateformes,
voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, tu peux en parler, d'ailleurs.
Oui, il y a des plateformes...
C'est ça qu'il faut, ouais.
Par exemple... Storyblock, Epidemic Sound, c'est des plateformes toutes américaines, et qui permettent donc soit on s'abonne mensuellement et on a le droit d'utiliser les musiques. Donc c'est compliqué, mais il faut que le podcast soit sorti avec la musique concernée, alors qu'on a encore un abonnement actif. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on peut toujours l'arrêter le mois suivant, du moment que le podcast est sorti au bon moment, quand on avait l'abonnement, c'est bon, on est tranquille. Et sinon, si c'est une musique qu'on va utiliser régulièrement, par exemple mon podcast indépendant, La Chamade, j'ai pris une musique et qui est toujours la même, donc là, je vais payer une bonne fois pour toutes, c'était $100, et j'ai droit à l'utilisation à vie de cette musique. Et donc, voilà, ça, c'est une solution aussi qui est quand même assez intéressante.
Ouais, absolument.
Et
voilà.
L'abonnement, ça coûte...
Et l'abonnement mensuel, il est plutôt autour de $15 par mois, des choses comme ça. C'est assez...
Peut-être que les studios accessible. De podcast prennent un abonnement.
Alors, pour les studios de podcast, je pense que c'est peut-être un petit peu différent, parce que là, c'est carrément toute une structure. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment l'exemple en tant que... podcasteuse indépendante, donc c'est juste je suis toute seule à faire cette production. Par ailleurs, quand j'ai travaillé avec des studios de podcast, on avait souvent des personnes pour faire des musiques originales, et là on s'embarrassait pas du tout je ne saurais pas comment ça se passe.
Ce qui est toujours mieux,
voilà, faut avoir un budget pour ça. Ouais. Mais en général, quand on travaille avec un studio de production, c'est vrai que c'est souvent admis qu'on va avoir un budget pour la musique, normalement.
Oui, normalement. Normalement.
Sinon, il faut le demander.
Ouais.
Sinon, il faut demander, oui.
Voilà. Très bien. Est-ce qu'on dit un mot des droits d'adaptation? Est-ce que c'est un vrai sujet aussi, peut-être Vianney? Vous avez, on n'en avait pas en préparant le.
Oui, absolument. En fait, de plus en plus, vos podcasts intéressent des producteurs d'audiovisuel, des producteurs de cinéma, des éditeurs littéraires. Et les podcasteurs ou les podcasteuses qui sont concernés ne savent pas comment procéder ou ne savent pas s'ils sont en capacité de céder leurs droits d'adaptation et comment ça se passe. En général, les contrats que vous signez avec les studios de podcast, vous proposez évidemment de céder l'intégralité des droits d'adaptation sur quelques formes futures que pourrait avoir le podcast, un livre, un roman graphique... un film, tout ce que vous voulez, une série. Nous, on vous conseille de faire l'inverse. On vous conseille de retenir tous les droits que vous pouvez. Et d'ailleurs, dans notre modèle de contrat, il y a des parties liées à la, enfin, qui sont intitulées cession des droits, et vous avez une partie réservée qui s'appelle droits réservés, où on explique que toutes les exploitations qui ne sont pas citées avant sont bien réservées à l'auteur et qu'il ne les a pas cédées. Je dis aussi, pour les gens qui travaillent avec Radio France, qu'il y avait vraiment une question, une incertitude sur ce sujet-là, puisque les contrats que fait signer Radio France étaient assez mal rédigés sur ce point-là, et qu'il n'était pas clair s'ils étaient détenteurs de ces droits ou si les auteurs les avaient gardés pour eux. Et Radio France nous a répondu objectivement et en public. À l'oral de la bouche du directeur juridique Jean-Michel Orion, c'était au festival Longueur d'onde l'an dernier, enfin cette année. Et on a eu aussi une lettre écrite de la présidente qui abordait certains sujets. Et sur celui-là, Radio France a dit « Nous ne nous considérons pas titulaires des droits d'adaptation sur les œuvres de nos auteurs ». Ce qui est quand même important parce que c'est plus anecdotique maintenant. C'est plus si rare en fait que des producteurs s'intéressent aux œuvres. Il y a eu il y avait un article de Télérama, je crois que c'était au printemps dernier, qui disait que rien que pour une émission, Les Pieds sur Terre, il y avait 3 réalisateurs de cinéma qui avaient fait acheter les droits ou étaient en passe de le faire, dont Jacques Audiard, dont Mario Vernon, enfin voilà des grands noms. Il y a l'émission Affaires Sensibles, alors c'est pas un podcast natif, mais bon voilà, maintenant Affaires Sensibles, qui était une émission de radio, est une émission de télévision, a été une pièce de théâtre.
C'est vrai que c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau. Ça.
Voilà. Il y a Julien Cernobori, pour peut-être quelque chose qui est plus proche du podcast natif, qui, une saison de la série Super-Héros, je crois que ça s'appelait Hélène, a été adaptée en pièce de théâtre. J'ai eu le cas d'ailleurs très récemment avec un podcast, une autrice d'Arte Radio. Enfin voilà, c'est quand même assez courant. Ça peut faire quelques revenus supplémentaires aussi. Alors le théâtre, par exemple, si vous avez une troupe, un metteur en scène qui s'intéresse à votre podcast, ne vous attendez pas à devenir un millionnaire. En revanche, quand c'est le cinéma ou la télévision, ou carrément une plateforme type Netflix, Amazon ou autre, ben, ça peut faire quand même quelques sous. Donc soyez très vigilants dans les contrats que vous signez.
Et d'ailleurs, il faut savoir que par exemple, dans le monde littéraire, c'est très connu, les cessions que les écrivains consentent à leurs éditeurs sont toujours séparés. C'est un contrat séparé du contrat d'adaptation. Séparé, c'est 2 contrats. Donc c'est vraiment très, très, très important. Et vous aurez le soutien de vos sociétés pour ne pas vous laisser embarquer dans une cession globale, y compris d'adaptation. Ça, c'est un vrai piège. Donc ça, il faut être attentif. Et appuyez-vous aussi sur les traditions dans le monde, je veux dire, hors podcast. Ça ne se fait pas et ça ne doit pas être fait. Donc ça, c'est un élément important.
Peut-être un élément supplémentaire, c'est que certains peut-être me diront, mais dans la pratique, en fait, les studios nous contraignent à céder ces droits. Notamment parce que vous avez beaucoup de studios qui ont des accords, un peu des accords cadres avec des éditeurs, et que ab initio, ils ont autorisé, enfin, ce contrat-là autorise l'éditeur à obtenir tous les droits sur tous les podcasts qui sont produits par le studio. Parfois, c'est pareil pour l'audiovisuel. Par exemple, Louis Media a un accord avec Media One qui leur donne une priorité d'accès à aux droits sur leur podcast. Donc, après, ça, c'est l'effet de la négociation contractuelle. Moi, je ne peux pas vous dire que la loi empêche un producteur d'obtenir tous ses droits dans le contrat initial. Non. Mais il y a des règles. Il faudra que s'il y a une nouvelle œuvre dans un nouveau format, vous ayez aussi une rémunération proportionnelle. Il faut qu'il y ait un contrat qui l'organise, etc. Après, ça reste de la négociation contractuelle. Parfois, c'est une ligne rouge du producteur. Si tu me cèdes pas tes droits d'adaptation littéraire, je signe pas avec toi.
Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça la difficulté quand on se retrouve à devoir signer un contrat avec un producteur. On se dit, dans quelle mesure est-ce que je peux faire valoir mes droits, ce que je veux garder comme droit. Et dans quelle mesure est-ce que je suis obligée de lâcher, sinon je vais pas travailler avec eux, parce qu'il y a des wagons d'auteurs, d'autrices derrière qui proposent des projets aussi hyper intéressants. Et donc, c'est ça. Je trouve que, enfin, je sais pas Marine, mais je trouve que c'est ça qui est difficile. En fait, des fois, on se retrouve dans des positions délicates et on signe des contrats qui sont pas forcément intéressants pour nous.
Ouais. Et c'est un crève-cœur, hein. Mais en revanche, quand on est dans des environnements, un peu plus sécurisés et bienveillants, là, il faut pas hésiter à négocier, quoi. Voilà. Moi, je l'ai fait, par exemple, pour Arte, j'ai fait modifier une petite clause de contrat pour une adaptation télévisuelle. Enfin, voilà. au cas où. Et ça s'est très bien passé. Enfin, c'était vraiment une toute petite ligne. Mais bon, parce que voilà, ça fait 15 ans que je travaille avec eux, quoi. Donc, c'était quand même plus facile. Il y a certains contrats, en fait. Là, maintenant, là, quand je t'écoutais, je me disais, mais en fait, il y a certains contrats, j'ai même pas lu les clauses, je sais même pas. Donc, non, mais oui, enfin, c'est.
Je sais pas ce que dit là.
C'est hyper important, quoi.
Le PIA là-dessus, il dit des choses.
Oula, vous me posez une question, j'ai pas appris par cœur.
C'est pas un piège. Hein. C'est pas un piège, Vianney.
Peu importe ce qu'ils disent, ce que je vous ai dit, voilà.
Non, parce que pourquoi je disais ça ? Parce que bon, ce document du PIA a le mérite d'exister. Quand j'avais vu rencontrer assez tôt de nouvelles écoutes, ils étaient assez sensibles à être plutôt au cordeau sur le plan contractuel. Et en fait, je trouve d'ailleurs que le monde du podcast essaye de façon plutôt positif de se structurer correctement. Je trouve que c'est pas il y a pas une espèce d'explosion avec un bazar épouvantable et puis c'est la jungle. Je trouve que le métier, et c'est bien, essaye de se structurer. D'ailleurs, je pense que le Paris Podcast Festival aide aussi à ça parce que c'est des rencontres qui permettent de se structurer. Et pourquoi je dis que sur ces questions, par exemple, qui sont très délicates pour vous en négociant bilatéral, de résister à une pression. Alors, par ailleurs, ça peut être associé aussi à une rémunération un petit peu meilleure. Donc, c'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord. C'est plus facile de dire ça quand on est à la SCAM dans son bureau et qu'on dit non, mais le faites pas. C'est pas bien de pas le faire. Il faut quand même finir le mois. Mais en revanche, ce qui pourrait être une évolution positive, puisqu'on l'a fait dans plusieurs secteurs, c'est de signer avec les producteurs un jour une charte de bonnes pratiques. C'est un peu tôt, je pense, aujourd'hui, mais je désespère pas, parce qu'on a des relations avec les plateformes, les producteurs qui sont plutôt bons. On est associés pour essayer d'avoir, ce que je disais, un fonds de soutien de la part des pouvoirs publics. Donc, l'idée, à un moment donné, justement, comme on l'a fait, à la SCAM, on a des négociations avec d'autres organisations d'auteurs, avec le syndicat de l'édition pour le livre. Il y a des chartes de bonnes pratiques, il y a des codes des usages. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, les sujets où on sent bien que l'auteur est trop seul par rapport à la pression d'un producteur, les chartes de bonnes pratiques peuvent beaucoup aider. Donc ça peut être une perspective à un moment donné, dans un marché qui se structure, d'aller réfléchir à des chartes de bonnes pratiques où justement on pourrait dire, l'usage, c'est pas de céder les droits d'adaptation selon certaines et certaines conditions. Ça peut être des éléments, de la même manière, sur le respect de l'œuvre, sur l'écriture, etc. Enfin, ça peut être des éléments collectifs qui, à ce moment-là, permettent d'encadrer mieux ce qui, pour vous, est extrêmement difficile à gérer en tête-à-tête, si j'ose dire. Voilà. Et ça, c'est évident, parce qu'en même temps, comme le dit très bien Vianney, il y a des tas de choses qu'on vous demande de signer qui ne sont pas illégaux, évidemment. On n'est pas dans l'illégalité. Ça, c'est encore autre chose. Si on est dans l'illégalité, c'est un autre niveau. Mais ce n'est pas forcément de ça dont il est question. C'est simplement ce rapport de force déséquilibré qui fait qu'à un moment donné, j'ai craqué, et il fallait bien, comme dirait l'autre, que je gagne mon pain. Voilà, je pense qu'on arrive à peu près. Alors, j'ai pas vu le petit. Qu'est-ce qu'on est bien alors. Parce que j'avais un petit panneau et on a dépassé de 4 minutes les 15 minutes. Donc il est 17h19. 11 minutes pour dialoguer avec vous et poser des questions, si j'ai tout bien compris. Est-ce que donc, du coup, il y a des questions là-haut, tout là-haut?
Vous me le rendre parce que
je vous le ramène après.
C'est pas grave. On peut le partager. Oui, on peut le partager. Donc, c'est pas un souci.
Bonjour, je m'appelle Elena. J'avais une question sur les droits musicaux. Parce que vous avez parlé des droits musicaux pour tout ce qui est habillage, bed, jingle, que sais-je. Mais pas du droit musical si on veut l'utiliser en tant qu'extrait court pour illustrer un propos. Parce que j'ai lu qu'on pouvait utiliser 10 secondes, 15 secondes, je pense, maximum, sans avoir justement à demander les droits à la SACEM.
Non, rapprochez-vous quand même de la SACEM. Ils sauront beaucoup mieux vous répondre que moi sur ce sujet. Le très court extrait, très bref extrait, il faut toujours se méfier un peu de ça, je pense. Eux, ils ont mis en place des forfaits spéciaux pour les podcasteurs. Je ne sais pas exactement ce que couvrent ces forfaits, mais il y aura les personnes pour vous répondre sur ces sujets-là à la SACEM.
Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, mais il y a des courts extraits en termes d'information, ça je sais. Si vous voulez, ça existe. Là, il n'y a pas d'autorisation. Vous prenez un tout petit bout pour illustrer un sujet en termes d'information. Mais alors, en musique, je ne suis pas sûr. Mais
Je crois qu'il y a effectivement un barème de la SACEM, il me semble, pour les podcasteurs indépendants, qui, à l'époque, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 2-3 ans. Donc, je ne sais pas si ça a changé, mais ce n'était pas très cher. C'était quelque chose comme 40 € de l'année, enfin l'année hors taxe, et qui donnait accès au catalogue, mais vraiment exclusivement pour les podcasteurs indépendants, à but non lucratif, enfin quelque chose comme ça. C'était vraiment dans des conditions spéciales. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui. C'est la dernière fois que j'avais vu ça. Voilà, mais c'est vrai que la SACEM n'est pas représentée ici, donc c'est difficile de savoir où on en est aujourd'hui.
Merci. Merci pour cette session. J'avais une question concernant votre taux journalier, pour parler argent très concrètement. C'est quoi les fourchettes ? Est-ce que vous, enfin, j'imagine que ça varie beaucoup, vous l'avez dit. Est-ce que vous serez prête à nous partager les vôtres ou partager des moyennes que vous observez
Toi, t'es pas intermittente.
Alors, non, moi, jusque-là, j'ai travaillé en facture. Donc, jusque-là, je dis parce que je suis en train de passer à l'intermittence. Enfin, d'essayer, en tout cas, de faire les 507 heures. Mais encore, j'aurai forcément une partie toujours en auto-entreprise. Alors, du coup, ce qui est différent du salaire ou de l'intermittence, c'est que on touche vraiment l'argent. Il n'y a pas de charge salariale. Donc, sur le papier, ça fait plus d'argent, ce qui aussi, moi, m'a beaucoup attiré au début parce que j'avais besoin d'argent concrètement. Donc, oui, entre, j'en sais rien, moi, je donne un exemple au pif, mais entre toucher 1 000 € en facture et 500 € en cachet ou salaire, on se dit, non, enfin, 1 000 €, c'est quand même plus sympa. En réalité, on paye des charges soi-même, etc. En réalité, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'arrêt maladie, etc. Mais bref. Donc, moi, pour répondre très concrètement, mon taux journalier varie. On va dire que je descends pas en dessous de 250 € facture, mais ça dépend des projets, ça peut monter à, pour tout vous dire, c'est monté jusqu'à 700 € facture par jour, mais dans un cas très précis, où en fait ce que j'ai fait, c'est que donc, je travaille avec une institution internationale. Là, je n'ai pas trop parlé de ça tout à l'heure parce que c'est pas en tant qu'autrice, c'est en tant que vraiment monteuse. Pour le coup, c'était vraiment un pur travail technique et j'avais demandé quel est votre budget, quelle est votre enveloppe. Ce qu'on m'avait conseillé de faire. D'ailleurs, c'est une bonne astuce parce que j'aurais jamais demandé ça. J'aurais jamais demandé 700 € par jour de ma vie. Et on m'a dit 700 €. J'ai dit, alors 700 €. Et c'est vrai que c'était pas mal. C'était vraiment un cas très particulier. Mais c'est pas du tout la norme. Hein. Je dis ça quand même. Je trouve qu'autour de 400 € facture par jour, on s'y retrouve bien. Et je laisse Marine répondre pour l'intermittence ou le salaire.
Ouais, ou le salaire. Alors moi, c'est vrai que quand on me propose des projets et qu'on me demande aussi, j'utilise ce petit truc là. Hein, c'est génial. Quel est votre budget? Mais voyons, on va voir si on peut s'accorder. Sinon, en général, quand c'est des choses aussi qui me tiennent à cœur, mais que j'ai quand même envie de faire, mon minimum c'est 200 par jour, quoi. 200 brut. Après, pour les producteurs diffuseurs, il y a des grilles de salaire ou en tout cas des idées. Donc, Radio France, les grilles de salaire, elles sont là, quoi. On peut pas les bouger. Peut-être un jour ça évoluera. Je peux parler de mon cas Arte Radio. Alors, ça dépend si c'est un unitaire ou une série. Enfin, le temps qu'on y passe, tout ça, ça se négocie un peu. Alors c'est vrai que je parle pas trop. C'est 200 jours hein, Arte Radio. Le nombre de cachets. Je sais pas. Je peux citer par exemple une série. Mais je l'ai là. Je sais plus combien c'était. Par exemple une série. J'ai eu 20 cachets à 200 € plus 500 € de droits d'auteur. Bon, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans. Alors, j'ai pas passé 2 ans dessus, vraiment, mais je saurais même pas évaluer combien de temps j'ai vraiment travaillé dessus. Je pense en fait peut-être 3 mois au total. C'est quand même pas énorme, mais ça s'est étalé sur 2 ans. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Ce projet a occupé ma vie pendant 2 ans. Et en ce qui concerne le taux journalier pour l'intermittence, moi j'ai ouvert mon statut avec 1 350 € d'indemnité. Et donc j'étais effrayée. On me disait non mais c'est génial en fait. Tu t'es quand même bien débrouillée pour l'ouverture, voilà. Et là je l'ai renouvelée. J'ai perdu des heures pour jouer sur le taux horaire. C'est-à-dire que j'ai déclaré 100 heures en plus que j'aurais pu garder pour l'année d'après, pour jouer un peu, parce que symboliquement, je ne voulais pas descendre en dessous de 1500 euros d'indemnité. Tout ça, je parle en net. Hein. Vraiment, c'était un seuil symbolique sous lequel je voulais pas descendre. Voilà. Enfin, c'est vrai que je travaille pour aussi. Après, il faut choisir. Donc, il y a des employeurs. Bon, voilà. Je sais que le taux horaire sera pas du tout intéressant et ça a un impact en fait après sur le statut d'intermittent.
Merci Marine. Je voulais, juste avant de passer à la question, j'ai vu qu'il y avait une autre personne à côté. Je vais vous laisser. Juste, tu dis, parce que ça c'est intéressant, est-ce que vous avez accès finalement au budget de la production, quand vous le demandez pour savoir. Oui, du coup, pour savoir combien je peux demander. Enfin, il y a un rapport entre le budget et combien je peux demander. Parce que, est-ce que vous avez cette information?
Moi, je demande, voilà, je dis quel est le budget. Et les quelques fois où j'ai demandé, on me l'a donné. Je dis pas que j'ai demandé systématiquement, mais les quelques fois où j'ai demandé, on me l'a donné, oui.
Oui, parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé une fois de pas le demander, et quand je l'ai appris au cours de la production, j'étais quand même bien fâchée. Donc voilà, il faut vraiment demander le budget, l'enveloppe. Voilà.
Non, mais je crois que c'est un élément. Il faut appeler votre attention sur le fait que ça aussi, ça fait partie dans le monde. Je fais souvent des parallèles avec le monde classique du documentaire, mais c'est important parce que c'est des parallèles et des analogies qui ont du sens. Là aussi, des chartes de bonne pratique exigent maintenant que les producteurs soient tenus d'informer le documentariste de la réalité du budget prévisionnel. Parce que, voilà, ça peut. Un auteur n'est pas idiot, il ne va pas demander la même chose selon les montants qu'on va lui indiquer. Et c'est logique. Voilà, mais sinon, je redonne la parole à la salle. Pardon.
C'est gentil, merci. Déjà, merci encore pour votre témoignage et vos conseils. Très utile. Et en plus, ça me fait une excellente transition, parce que je pense qu'on est à peu près sur les mêmes sujets. Moi, typiquement, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, déjà. Donc, je voulais savoir si il était envisageable pour des studios de production, quand on vient en tant qu'auteur, d'être rémunéré en facture, ou si vraiment c'est quelque chose qui ne se fait pas dans ce type de structure. Et ce qu'apporte l'intermittence, en quoi ça peut être mieux ou moins bien quand on travaille en tant qu'auteur.
Alors, justement, oui, voilà, c'est ça. En fait, la facture, tout le monde veut travailler avec la facture. Je ne sais pas si c'est tout le temps permis. Par exemple, si on a un statut de journaliste, par exemple, qu'on travaille pour un média, je pense que c'est... Normalement, on n'est pas, je pense, censé être payé en facture. Je crois que c'est même interdit. Bon, je crois.
C'est fortement déconseillé par les collectifs de Pigiste.
C'est ça. Mais sinon, si on travaille avec un studio de production, il préférera toujours payer en facture. Enfin, personne ne se bat pour nous payer autrement qu'en facture. Ça, c'est clair. C'est plutôt l'inverse. Il faut se battre pour être payé autrement. Et je ne sais plus quelle était l'autre question. Il y a un truc qui m'a fait...
L'intermittence.
Alors oui, qu'est-ce qui est mieux? En fait, c'est simple. Moi, ça fait 5 ans que je suis auto-entrepreneur, que j'ai pas d'arrêt maladie, j'ai pas de chômage. Si je travaille pas, j'ai pas de sous, j'ai pas de congé. Enfin voilà, c'est vraiment très compliqué. Et bien sûr que sur le coup, comme je disais, moi, c'était attirant, puisque ça faisait beaucoup de sous d'un coup, et c'est génial, mais c'est aussi très très, pour le coup, la précarité vraiment à l'état pur, quoi, et c'est très flippant. Et c'est pour ça que moi je passe à l'intermittence aujourd'hui, en tout cas je suis en démarche pour, parce que j'ai envie de... Et aussi les retraites, hein, même si un jour, peut-être qu'on sait pas si un jour on aura des retraites, mais en tout cas, si jamais, on cotise beaucoup mieux en tant qu'intermittent, ou même en salaire, hein, en étant payé en pige, qu'en tant qu'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est une très mauvaise idée, je pense, en fait.
Puis on a accès à une complémentaire santé, audience, enfin, voilà, il y a quand même des choses qui sont... des formations avec l'AFDAS, qu'on peut aussi avoir avec le statut d'auteur. Hein. C'est quand même très important, quoi. C'est une sécurité dans la précarité.
Si vous travaillez avec un studio, je ne vous conseille pas de vous faire payer en facture et je ne les conseille pas, eux, de vous payer en facture. Normalement, si vous êtes un auteur, personne physique, alors d'abord, il faut avoir les moyens de faire une facture. C'est-à-dire qu'il faut être micro-entrepreneur, avoir son numéro Siret. Enfin, je n'en ai pas moi-même, donc je pense à Samia, tu vois. tu opines de la tête. Normalement, effectivement, bon, ça a déjà été dit, mais vous avez quand même sur le droit d'auteur un certain nombre de cotisations qui vont vous permettre effectivement de recharger vos droits à la formation. Vous avez une cotisation pour l'assurance vieillesse, etc., etc. Vous avez des indemnités journalières pour les risques qu'évoquait Samia, les grands risques identifiés par la sécurité sociale. Vous n'avez pas de, effectivement, vous ne cotisez pas pour le chômage. C'est un peu le seul sujet. Mais un studio qui paye, qui abuse. Il y a plusieurs situations. Un studio qui abuse du régime du droit d'auteur, ça existe aussi, puisqu'il ne paye pas de cotisation dessus. Il préfère ça que le salaire. Et un studio qui abuse du régime, entre guillemets, de la facture, il s'expose aussi, lui, auprès du fisc, à des risques. Ouais. Donc, il ne faut pas le faire. Normalement, un travail d'auteur, ça se paye en droit d'auteur. Et un travail de réalisateur, ça se paye en salaire.
Merci, bon. Vianney. Ah, il est 17h30. Donc, je crois qu'on va... 4 minutes
tant, tant.
Alors, une dernière question, comme on dit. Mais la der des der. Alors là, il y a... Je crois que c'est au premier rang. Il n'y a pas de concurrence. Vous avez de la chance.
Un, deux, un, deux.
Donc la dernière, on y va.
Bonjour. Moi, j'ai une question déontologique. Et j'ai probablement les voix des profs journalistes qui résonnent dans ma tête. On a parlé des podcasts de studio... produits et des podcasts commandités par des marques ou des associations, des institutions. Est-ce que en faisant du podcast commandité, on devient communicant plutôt que journaliste ?
C'est une très bonne question. Non, on reste journaliste ou auteur journaliste. Quand on arrive à faire respecter sa liberté éditoriale, voilà. Quand c'est un prérequis, quoi. Enfin, je ne sais pas, Samia, toi. Oui,
merci. Il y a effectivement, moi, une fois, on m'a proposé, finalement, je ne l'ai pas fait, je n'avais pas la possibilité à ce moment-là, mais un grand média m'avait proposé de faire un podcast pour une institution. Donc là, encore une fois, hein, c'était via un studio de production média. Et eux, par contre, ils avaient négocié en amont une complète indépendance éditoriale. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient juste avec l'institution sur le nombre d'épisodes et la durée des épisodes, mais c'est tout. En fait, après, on leur livrait effectivement le produit fini et garantissait leur indépendance éditoriale. Voilà, c'est un grand média. Donc, c'est ça. En fait, tout dépend du statut. Moi, par contre, dans mon exemple avec cette fameuse marque, cette fameuse entreprise, j'ai plutôt eu l'impression d'être communicante, entre guillemets.
Il y a juste une chose qu'il faut savoir. Enfin, je ne sais pas si c'est juridique. Enfin, oui, c'est quand on vous commande un film... Vous pouvez avoir le droit de le faire comme vous le voulez, mais le diffuseur ou celui qui vous l'a commandé peut renoncer à le diffuser si ça lui plaît pas. Ça faut jamais oublier ça, mais il paye. Donc même c'est-à-dire que vous faites un film, ça plaît pas à la personne qui vous l'a commandé et qui veut pas la diffuser, il a le droit de pas la diffuser. Ça c'est quelque chose qui est pas forcément connu, mais qui fait que par contre vous êtes payé, donc vous avez plus rien à dire. Il vous a payé, il vous demande pas de vous censurer parce que vous êtes pas, éventuellement pas d'accord. Parce que ce qui arrive souvent, c'est à la fin. Justement, je parlais des montages, le dernier montage, on n'est pas d'accord, c'est quoi ce truc, on va enlever cette scène et tout. Soit l'auteur ne résiste pas et voilà, il le fait. Soit il résiste. Et alors, le diffuseur, il a une possibilité de dire, alors moi, dans ce cas-là, je le diffuserai pas. Voilà. Au pire du pire. Vous voyez ce que s'il y a un conflit au fond, s'il y a un conflit éthique, à un moment donné, ça peut finir comme ça. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. C'est très rare, mais ça arrive. Il y a des films qui ont dormi sur des étagères et qui ont jamais été diffusés. C'est marginal, mais ça peut exister. Voilà. Peut-être on a Marine. Le mot de la fin, Marine.
Oui, c'était juste pour rebondir. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles des profs, journalistes, etc. Ouais,
mais c'est une question, ça.
Tout à fait. Enfin, en fait, c'est pas franchir le Rubicon de la communication, quoi. Voilà. On est autre chose. C'est vrai que, enfin, on peut faire du podcast documentaire pour. Différentes institutions, différentes marques. En fait, et tant mieux. Tout le monde veut son podcast, et tant mieux, finalement. Enfin, nous, ça nous fait travailler. Ça crée aussi des vocations. Mais il faut bien veiller à pas devenir communicant, quoi.
Bon, on termine là-dessus. Voilà, ne devenez pas de pur communicant. Encore que... On peut aussi être un bon communicant, faut pas, oui, voilà, pas d'opprobre. Voilà, merci beaucoup et bon week-end.